Le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marcilli.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
La semaine dernière, nous avions entamé une conversation passionnante avec l'historien et écrivain Patrice Guénifet, spécialiste de la Révolution et de l'Empire, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, au sujet des grands soubresauts de l'histoire de France que furent ces révolutions, de notre rapport contemporain aux grands hommes et à l'idée même de révolte. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette discussion que nous avons eu de plaisir à l'enregistrer.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre cet entretien en évoquant à nouveau des figures telles que Napoléon, De Gaulle, mais aussi Talleyrand, et en nous interrogeant sur ce qu'elles disent du rapport de la France à son histoire et aux grands hommes, notamment à la figure de l'homme providentiel. Avec Patrice Guénifet, qui est lui-même un passionné de littérature, nous parlerons aussi du lien qui existe entre la politique et l'écriture. Ce débat nous amènera aussi à parler d'Europe, mais aussi du rapport de notre société à son passé, à l'heure où certains tentent de ne l'appréhender que sous un angle moral, voire à en effacer des pans entiers. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Vous dites que, et vous écrivez, que le grand homme, ce qui le caractérise, c'est qu'il est capable d'incarner une forme d'espérance politique. Or, vous disiez qu'aujourd'hui, au niveau de la France, cette forme d'espérance politique, elle a un petit peu disparu du fait des circonstances actuelles. Est-ce que, quelque part, le grand homme de demain ne pourra exister qu'au niveau européen ? Parce que finalement, même si on n'aime pas l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que c'est pas là qu'il peut y avoir une forme d'espérance politique, notamment dans un contexte de compétition géopolitique, de défense d'une identité européenne par rapport à la Chine, aux États-Unis, etc., sur le jeu des grandes puissances ? Est-ce que finalement, le grand homme, on ne va pas le voir émerger de manière aussi paradoxale que cela puisse sembler être, mais à Bruxelles plutôt qu'à Paris, Madrid ou Rome?
Non, à Bruxelles, je n'y crois pas du tout. Ça m'étonnerait. Le problème de l'Europe, c'est que... bien sûr, il existe une Europe. Et quand on voyage en Europe, on sent bien que, tout de même, on est dans un monde qui nous est familier. On n'est pas dépaysé si on va à Berlin ou à Budapest. C'est un air familier. C'est pas comme si on va, par exemple, à Mexico, ou quand même, là, on sait, ou à Pékin, a fortiori, où on sait que là, on est ailleurs, dans un autre monde. En même temps, l'Europe est divisée par la langue, par les langues. C'est une pluralité de langues, ce sont des histoires très différentes, ce sont des traditions très différentes. En même temps qu'il y a une sorte de familiarité, on est un peu chez soi en Italie. Mais néanmoins, dès qu'on franchit la frontière française, dès qu'on arrive à Vintimille, eh bien on sent bien qu'on n'est plus en France. Et pas seulement du fait de la langue, il y a quelque chose qui change. Ce qui veut dire que l'Europe, c'est un conglomérat d'identités encore très fortes et encore très, très marquées. Donc tout ça ne fait pas un peuple qui pourrait se reconnaître dans une personnalité. Et je ne sais plus où, j'avais cité une enquête très intéressante sur les grands hommes des Européens. Et en fait, chaque peuple avait son grand homme dans sa propre histoire, soit politique, littéraire. Les Espagnols, c'était Cervantes. Les Italiens, c'était Dante et Garibaldi. Les Allemands, c'était Goethe, parce que, bon, eux, ils ont un problème pour choisir. Les Français, c'était Napoléon et De Gaulle. Bref, donc, très difficile de concevoir d'un peuple européen. Tout ce qu'on peut concevoir, c'est ce qu'avaient conçu les fondateurs de l'Europe, c'est une structure confédérale. Une alliance pour maximiser les profits des investissements, de l'investissement commun. Ça, c'était raisonnable. Passer de là une structure fédérale, comme le voulait le regretté Giscard d'Estaing, avec un chef d'État européen, on ne voit pas comment ce serait possible. C'est-à-dire, là encore, comment se forgerait une légitimité forte de ce pouvoir reconnu par tous ? D'autre part, on voit aujourd'hui que la dynamique n'est pas à plus d'Europe, mais est plutôt à la division de l'Europe. Très clairement aujourd'hui, dans l'Union européenne, dans les 27, on a très clairement deux Europes, et même trois. On a une Europe du Midi qui n'a pas oublié les événements avec la Grèce, On a une Europe, donc le cœur de l'Europe, et puis on a une Europe d'Europe centrale et orientale qui repose sur des valeurs et sur des idées politiques tout à fait différentes. Et des mœurs aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les gens d'Europe de l'Est, c'est l'ancienne humanité qui continue de subsister à côté de cette nouvelle humanité, entre guillemets, qu'on voit se développer à l'Ouest. Le wokisme est en train de contaminer toute l'Europe occidentale, mais n'arrive pas à mordre encore sur l'Europe orientale, sauf de manière marginale. Voilà. Donc on ne voit pas comment un grand homme européen surgirait. Les histoires sont trop séparées, et aujourd'hui les clivages sont trop forts pour qu'une telle éventualité puisse advenir. On peut le regretter, sans doute. D'ailleurs, prenez les États-Unis, là encore, c'était 13 pays différents. Ils ont d'ailleurs failli avoir une guerre civile, ce qui a conduit à la Convention de Philadelphie pour trouver une solution avant que tout ça n'explose. Mais en même temps, ils étaient réunis par l'unité d'origine anglaise, hollandaise, l'unité de religion surtout, protestante, qui fait qu'ils ont pu construire un régime fédéral, comme l'Allemagne, mais qui là encore sort de la vieille Allemagne unie par sa langue, malgré la division politique. Alors que l'Europe, ben, c'est un... Il existe quelque chose qui s'appelle l'Europe, mais en même temps, ce quelque chose n'existe pas assez pour devenir une entité politique.
Alors, il y avait une forme, évidemment, de provocation dans ma question à imaginer l'émergence d'un homme providentiel dans les couloirs du Berlaymont, parce que ça peut paraître assez antithétique. Néanmoins, ce qu'on voit quand même, par exemple, chez un Emmanuel Macron, c'est qu'on a le sentiment qu'assez vite, il prend conscience qu'il ne pourra devenir homme d'État, s'incarner pleinement en homme d'État, que sur la scène européenne. Et il essaie, tout de suite, dès le début, de jouer un rôle plus d'homme d'État européen, quelque part. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché. Certains lui disant, finalement, votre seule grande ambition politique, c'est l'Europe, c'est pas la France. Est-ce que ça vient pas du sentiment chez lui que, même si l'Europe est telle que vous l'avez décrite, et que si on est loin d'une Europe fédérale, on n'ira probablement pas vers une Europe fédérale, l'homme aujourd'hui n'est capable d'écrire un grand destin que sur la scène européenne ?
Oui, mais ça tient, concernant Macron précisément, ça tient à que probablement, je ne suis pas à sa place, je ne suis pas dans sa tête non plus, vraisemblablement, il fait le constat que l'âge des nations est dépassé. Voilà. Et qu'en effet, c'est sur une scène plus large que s'écrit désormais l'histoire, et que, comme je reprends un mot de Benjamin Constant, que la France, c'est un fragment d'un ordre de choses qui a disparu. Ouais, probablement, c'est sa conviction. D'autre part, il y a aussi une espèce de fatalité politique, c'est qu'un homme politique qui veut jouer un grand rôle, il a beaucoup de mal à le faire en France. Non pas parce que c'est un petit territoire trop étriqué, mais parce qu'il est désarmé à plusieurs titres. D'abord par l'Europe, c'est-à-dire que nos gouvernants nationaux ont vu une partie de leurs compétences leur échapper du fait de la construction européenne. D'autre part, l'ascension des juges et leur participation de fait au pouvoir législatif et à l'exercice du gouvernement font que les dirigeants ont les mains de plus en plus liées par rapport au droit. Et que d'autre part, la décentralisation même ratée a encore un peu plus dépossédé le gouvernement central de ses prérogatives. Donc aujourd'hui, pour conquérir la gloire, comme on disait jadis, se retrouver à l'Élysée, c'est pas forcément une chance. Il y a peut-être même plus de gloire à conquérir au niveau vraiment local qu'au niveau national, où l'État est paralysé, ligoté de toutes parts. Et effectivement, dans ce cas, on se dit c'est plutôt sur la scène européenne. Sauf que pour devenir un grand homme, pour conquérir, pour jouer un très grand rôle, eh bien, il faut être reconnu. Il n'y a pas de grand homme sans public. Hein. C'est-à-dire que le grand homme, certes, il sent en lui des qualités qui font sa grandeur, mais si ces qualités ne sont pas reconnues, le grand homme passe pour un fou, hein, pour quelqu'un qui a la folie des grandeurs. Voilà, donc c'est très important d'avoir un public. Or, on ne peut pas avoir de public européen, parce que l'Europe cultive chacune sa propre histoire et ses propres grands hommes. Et je vois mal les Français accepter, le nouveau chancelier allemand comme grand homme, ou le successeur de Mario Draghi, celle qui va succéder peut-être à Johnson. Bon, on ne voit pas où est la possibilité de ça. Alors maintenant, les hommes politiques aujourd'hui, ils sont plus à l'aise, il faut le dire, dans les structures bureaucratiques et technocratiques de Bruxelles que sur le théâtre national, parce que là, on n'a pas à conquérir la popularité.
Oui. Ouais. Peut-être que le seul public européen vraiment uni, il n'est pas dans le domaine de la politique, il est dans le domaine du football, où là, on reconnaîtra les grands hommes footballistiques à travers les pays, indifféremment
des
nationalités.
Oui, mais bon, les passions nationales qui, quand même, ont tendance à s'éteindre, survivent dans le football également.
Tout à fait. Oui. Deux petits commentaires par rapport à ce que vous venez de dire. Le premier, c'est sur... finalement, pour qu'il y ait un grand homme, il faut le reconnaître. Oui. Et puis, il faut qu'il soit reconnu. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une croyance au pouvoir sans limite de la volonté individuelle et collective. Ça m'a fait penser à une phrase que vous citez, que De Gaulle confie à Malraux. « Je suis le personnage du vieil homme et la mère, je n'ai rapporté qu'un squelette. »
Donc c'est terrible.
C'est une phrase terrible.
Oui, il parlait de la France.
Oui, bien sûr. Oui. Donc peut-être aussi... on faisait référence au président Macron qui imaginait davantage jouer son rôle au niveau européen. C'est peut-être aussi pour ces raisons. L'autre petit commentaire, c'est effectivement, vous avez évoqué que chaque pays reconnaît ses propres héros, qui ne sont pas les héros des autres. Et j'avais été marqué, horrifié, amusé par une émission qui avait eu lieu dans plusieurs pays. La même émission, adaptée dans chaque pays européen, c'est les plus grands hommes de tous les temps, donc pour chaque pays. Bien sûr, c'était uniquement les personnages nationaux qui était reconnu. Pour la France, c'était assez particulier, puisque c'était en 2005, c'était un grand sondage qui avait été fait. C'était Charles de Gaulle qui était en tête, devant Louis Pasteur. Mais après, Napoléon et Louis XIV étaient beaucoup plus loin. Napoléon était derrière des personnalités comme Coluche, Bourville, Jacques-Yves Cousteau ou Finlandel. Bon, je ferme la parenthèse.
Je vous interromps. En 2005, Napoléon sortait d'une campagne... qui avait commencé en 2004 à l'occasion de la commémoration du sacre, précisément sur le thème de l'esclavage. C'était le début.
C'est le début.
Et donc la popularité de Napoléon à ce moment-là était très basse.
Austerlitz avait été zappé, beaucoup de choses avaient été
zappées. Chirac n'avait pas célébré Austerlitz, par contre il avait envoyé une délégation pour célébrer Trafalgar en Angleterre. Mais donc c'est une mauvaise passe pour Napoléon.
Oui.
Donc c'est juste un.
Non, mais voilà, donc tout à fait. Donc c'est aussi le rapport aux grands hommes qu'on évoquait. Pour continuer sur notre rapport à l'histoire, il y a, je pense, un chapitre qui nous a particulièrement intéressé avec Jérémy dans votre Napoléon et De Gaulle, lorsque vous effectuez un autre parallèle entre Napoléon et De Gaulle, c'est leur passion pour l'écriture, le besoin d'écrire. Alors, leur parcours, leur style d'écrivain diffère, mais au-delà de ces différences, en quoi l'écriture est-elle vraiment consubstantielle à leur œuvre politique, d'autant plus qu'en France, le lien entre littérature et politique reste une tradition, même si aujourd'hui, malheureusement, souvent, lorsqu'un homme politique publie un livre, ce n'est pas forcément une œuvre littéraire, c'est plutôt un prétexte pour engager une tournée médiatique.
Oui, et puis c'est pas toujours lui qui l'a écrit non plus. Donc,
pas toujours les journalistes qui l'ont lu.
Donc, vous connaissez l'histoire d'un de nos anciens présidents qui avait décidé de faire écrire une biographie d'un résistant célèbre et qui avait confié l'écriture de ce livre à un nègre. Mais le dit président payait tellement mal son nègre que lui-même a plagié une thèse, ce qui a valu au dit président un certain nombre d'avanies, et concernant d'ailleurs pas seulement sa réputation. Voilà, on ne va pas donner de...
Pas de nom.
De nom.
Mécano, comme on dit.
Voilà. Mais la France est a été longtemps un pays très, très littéraire, et d'ailleurs, on est encore l'un des rares pays où vous avez des librairies un peu partout. Ça devient très rare. Vous avez des pays comme l'Angleterre où les librairies ont quasiment disparu. Hein, même à Londres, il en reste très peu. En France, il y a encore des lecteurs, des gens qui lisent. Alors, plus des femmes que des hommes, d'accord, mais il y a quand même encore beaucoup de Français qui lisent. Il y a encore même au moins une émission littéraire, la Grande Librairie. Je crois que ça doit être un phénomène absolument unique en Europe. Donc, on a été, et nous sommes encore un peu, un peuple littéraire. D'ailleurs, on voit le succès de Michel Houellebecq, qui est quand même... Ce n'est pas l'auteur le plus facile à lire. Si vous voulez un livre facile, vous tournerez plutôt vers Guillaume Musso que vers Houellebecq. Nous sommes un peuple littéraire, et il est vrai que l'écriture a eu sa part dans la vie politique. Alors, je pense que c'est un héritage qui vient de loin. Ça remonte probablement à César. Hein. César a beaucoup écrit. Il a écrit l'histoire, de non pas de son règne, mais de ses guerres, et en particulier de la guerre des Gaules. Et l'image est restée que le prince doit s'illustrer aussi dans les lettres, et qu'il est le protecteur des arts. Et cette conception qui mêle dimension patronage artistique, écriture, littérature et politique s'est transmise de la Renaissance à la monarchie absolue avec Louis XIV, à la Révolution, à l'Empire surtout avec Napoléon, qui relève le rôle du souverain dans ce domaine qui avait été celui de Louis XIV, et de là à la République, parce que tous nos grands hommes politiques ont écrit. Hein. Ça a été une grande tradition. Ça tient peut-être aussi au fait que, après la Révolution, au XIXe siècle, la politique n'est pas seulement l'affaire d'hommes politiques de profession, mais souvent de journalistes et d'écrivains, de gens qui écrivent, d'intellectuels. Le symbole, c'est Guizot. Guizot est à la fois professeur au Collège de France, journaliste, historien et ministre. Et hommes politiques. Et beaucoup vont prolonger cette tradition qui va jusqu'à Mitterrand, en fait. Parce que Mitterrand avait le sens de, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs, le sens de l'histoire de la France, et il était très au fait de ça. Et il avait à cœur de laisser sa marque dans l'espace, hein, la pyramide du Louvre, les colonnes de Buren, ça c'est un peu moins bien, mais la pyramide du Louvre, c'est quand même quelque chose de très réussi, et il faut l'admirer pour cette initiative, d'avoir choisi le bon projet, etc. Et puis aussi le sens du président écrivain. Du président, en un peu plus frelaté que De Gaulle, parce que De Gaulle raconte, enjolive aussi un peu, mais raconte une histoire qui a eu lieu. Mitterrand disserte sur le sexe des anges, et c'est un peu plus frelaté parce que tout est faux dans la vie de Mitterrand. Mais néanmoins, il prolonge cette tradition. Et depuis, tous les médiocres présidents qui ont succédé à Mitterrand, il n'y a aucune exception à cette règle, tous ont commis leur ouvrage ou ont fait écrire un ouvrage. Donc c'est un peu comme c'est un peu l'équivalent de la comédie présidentielle, de l'apparition du grand homme qui promet monts et merveilles et la solution de tous les problèmes. Et bien de la même façon, si on n'écrit pas un livre, et bien, ou si on ne signe pas un livre, et bien on a peu de chances d'être élu, parce qu'à ce moment on ne correspond plus à cette image qui nous a été transmise par des siècles et des siècles de traditions à la fois monarchiques et républicaines.
Mais si on laisse de côté, entre guillemets, ce jeu de dupe du rapport à l'écriture et à la politique, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la politique et l'écriture peuvent aussi se nourrir de manière plus saine ? D'abord, si on prend la perspective d'un Churchill, il y a l'idée de « je vais écrire l'histoire parce qu'ainsi elle me sera favorable ». Donc il y a cette idée de « je vais laisser une postérité ». Et puis deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas finalement un lien ? Vous disiez que le grand homme a cette part de démesure en lui, quasiment une part de folie. Or l'écrivain, c'est aussi ce qu'il caractérise. Le grand écrivain a une part de folie en lui. Et donc finalement, est-ce que le grand politique et celui qui écrit, ou dans le cas de Napoléon, celui qui dicte, parce que vous le dites, sa correspondance, il ne fait que la dicter, il n'écrit jamais. Est-ce que finalement, ce n'est pas la rencontre de deux folies ?
Non, je crois que c'est... Comment dire ? Il y a d'un côté le souci de se conformer à un modèle qui fait la grandeur de l'homme politique, à la française. Mais qu'on retrouve aussi chez un Churchill, qui par ailleurs était très francophile, mais qu'on retrouve aussi par exemple aux États-Unis, où l'habitude d'écrire leurs mémoires est très fréquente chez les anciens présidents, lorsque ils en ont le temps, bien sûr. Il y a bien sûr aussi l'idée de, comme vous le dites, de présenter l'histoire d'un point de vue qui leur soit favorable. On sait que même dans les mémoires de guerre de De Gaulle, il a un peu tendance à gonfler son rôle, à se rendre plus indispensable aux Anglais qu'il n'était. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a le sens de la postérité. C'est-à-dire l'idée que la vraie gloire, bien sûr, ça consiste à faire des choses importantes, à agir, à faire de sa vie quelque chose, mais que ça consiste aussi à ne pas être oublié. Et l'écriture, c'est un moyen d'exister après soi, hein, au-delà du terme de sa propre vie. Et c'est ça, je pense, qu'ils cherchent tous. Hein, c'est la postérité. C'est la place qu'ils garderont dans l'histoire, même si, bien sûr, ils n'en sont pas maîtres. Mais la place qu'ils garderont dans l'histoire. Peut-être même que cette idée courait dans la tête de Chirac lorsqu'il a rédigé ses mémoires. Bien sûr, il n'était pas maître de la suite, puisque plus personne ne se souvient même qu'il a existé un jour. Mais voilà. Mais en même temps, il y a probablement ces trois dimensions. Un modèle, une auto-justification, et puis le souci de la postérité, c'est-à-dire de prendre rang dans la galerie des grands personnages de l'histoire de France, d'avoir laissé sa marque.
Et au-delà des récits biographiques et autobiographiques des grands hommes, la littérature et l'histoire sont toujours bien sûr grandement liées, notamment grâce au roman, à titre très personnel, mon lien aux révolutions de 1848, au-delà du fantastique récit de Tocqueville dans les souvenirs, c'est l'éducation sentimentale de Flaubert. Oui, oui. On pourrait multiplier les exemples. J'imagine que vous aussi, vous avez, enfin, aussi bien Jérémy que vous, Patrice Guénifet, vous avez des romans qui vous ont plus marqué, peut-être
de moins grande tenue.
Mais c'est-à-dire
pour moi, Napoléon, c'était un petit roman qui était d'ailleurs tiré d'un film en Bibliothèque Verte, la Sentinelle endormie de Noël, qui était l'histoire d'une conspiration ratée contre Napoléon, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Il arrive à la fin quand tout s'est dénoué et que le maître de maison, qui était un fervent royaliste, est devenu bonapartiste. Et donc accueille Napoléon dans sa maison où il devait le faire sauter selon ce qui a été prévu. Voilà, moi c'est ça qui m'a... Ça, et Guerre et Paix aussi, c'est plus... Oui. Mais quand même, c'est ça, c'est ce film qui m'a donné le goût de cette période napoléonienne. Et c'est Michelet, par son côté romanesque, sa manière de raconter les grandes scènes de la Révolution, qui m'a donné le goût de la Révolution. Donc effectivement, souvent vient l'histoire par le roman et par la littérature. Oui.
Avant cette émission, Romain, on en avait parlé, et c'est vrai que le thème de la Révolution, j'ai tendance à l'associer au docteur Jivago de Pasternak, parce que je trouve que ce roman est extraordinaire, parce qu'il montre la difficulté, enfin l'impossibilité, pour un homme dans une période de temps extrême, d'être nuancé. C'est finalement le tragique de toute personne modérée dans ces temps de révolution. Donc je trouve que, enfin, pour moi, je l'associe à la révolution.
En revanche, pour ce qui concerne les révolutions, vous semblez beaucoup plus sceptique sur la force de l'image et du cinéma pour bien les raconter. Vous dites même, vous écrivez même qu'elles sonnent faux, notamment par rapport à la représentation de la foule. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quand même quelques exceptions ?
Je suis injuste, sans doute. On a le droit aussi d'être très injuste. Hein. C'est que je trouve qu'on n'arrive pas à rendre les scènes de foule, probablement pour des raisons, il n'y a pas assez de moyens. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, peut-être avec le numérique, on pourrait mieux s'en sortir. Et puis, concernant plus précisément la Révolution, donc souvent il y a un manque de moyens certains. Dans le cinéma français, on n'est pas en Russie soviétique où Bondarchuk avait pu faire son Guerre et Paix avec des milliers et des milliers de figurants parce que ça coûtait très peu cher. Là, il faut réduire l'épopée à quelques soldats, quelques chevaux, quelques canons et un peu de fumée. Sans doute aussi parce que et ça, c'est un problème français, parce que si vous prenez les Anglais, par exemple, ils arrivent très bien à raconter leur histoire par l'image. Regardez, aujourd'hui, la mode est aux séries. Toutes ces séries anglaises historiques sont absolument extraordinaires. La reconstitution, les personnages, les acteurs, le sens de la différence des temps, tout ça est extraordinaire dans les séries anglaises. Les séries françaises sont ratées. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a la tête trop remplie d'images d'Épinal. Et que quand on raconte la Révolution... C'est toujours Édith Piaf accrochée aux grilles de Versailles. Moi, c'est un truc qui m'a toujours rendu dingue, ça. La voir beugler, ça ira, aux grilles de Versailles. Ça me rend malade. Voilà. Donc, ce sont des images d'Épinal. Il y a eu différents films sur Napoléon, c'est pareil. Alors c'est toujours, depuis Abel Gance, la scène de la bataille de Boule de Neige, puis on va le retrouver à Toulon, il a la gale et il tire au canon, puis en Italie, puis Joséphine, puis etc., etc. Donc ce n'est pas une reconstitution historique, c'est la légende historique mise en image.
Parce que la foule est absente, souvent, des révolutions.
Ouais.
C'est aussi cet espace-là.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose.
Tout à fait, mais
et je crois que c'est parce que les Français sont prisonniers d'un roman national, qui par ailleurs a ses vertus, et qui empêche de raconter ou de filmer l'histoire. Alors que les Anglais n'ont pas de problème avec leur histoire. C'est-à-dire qu'en France, si vous montrez une révolution, si vous faites comme Romère, qui était absolument un contre-révolutionnaire définitif, il n'y a pas plus réac que Romère. Romère, l'Anglaise et le Duc. L'Anglaise et le Duc, il fait absolument sans moyens un film qui est d'ailleurs un très joli film, avec des panneaux dessinés, etc. Mais il a été traîné dans la boue, ce film. Parce que précisément, il a été pris comme un film contre-révolutionnaire. Romère était contre-révolutionnaire, le film ne l'est pas forcément. Mais ça a été perçu comme tel. Les Anglais, eux, n'ont pas de problème avec leur histoire. On le voit déjà avec ce fabuleux film des années 60 qui s'appelait Zulu, avec Michael Caine, qui est sur la guerre en Afrique du Sud. Pour faire ce film, il faut vraiment n'avoir aucun problème avec sa propre histoire. Nous, on serait bien incapable de faire ce genre de film. Voilà. Et nous, on a tellement un problème avec notre histoire qu'on n'arrive pas à la raconter. Alors maintenant, pour en venir à l'autre question, à l'autre aspect des choses vers lequel vous souhaitiez impérativement m'orienter.
Vous l'avez bien senti.
Justement, la mythologie des révolutions, c'est la foule. C'est le peuple qui se soulève en masse pour réclamer justice, pour faire valoir ses droits, et qui se dirige vers les centres du pouvoir. En réalité, la foule est plutôt rare dans les révolutions. C'est vrai qu'il y a des journées, comme on disait à l'époque de la Révolution française, où il y a du monde. Mais c'est quoi ? C'est quelques milliers de personnes, comme le 14 juillet. C'est pas la foule immense que l'on a dit. Je crois que le 31 mai 93, lorsque les Girondins sont renversés, d'après les renseignements qu'on possède, c'est 10 000 personnes qui manifestaient et qui ont obtenu la chute de la majorité parlementaire. 10 000 personnes, équipées de quelques canons, qui ont fait la différence. Voilà, donc c'est rien. Le 10 août 92, c'est en grande partie un coup d'État qui est perpétré par 560 Marseillais, associés à 340 environ Brestois, qui attaquent le château des Tuileries, et qui sont venus pour ça. Voilà. Donc, la révolution d'octobre en Russie, c'est un groupuscule qui prend le pouvoir. D'ailleurs, transporté par les Allemands jusqu'aux frontières de la Russie, en tout cas en ce qui concerne Lénine, et qui prend le pouvoir. Donc, souvent, les révolutions ne sont pas l'affaire des masses. Et pour une raison probablement qui tient à la condition humaine, c'est que pour faire la révolution, il faut être prêt à tout perdre. Et que très peu de gens sont prêts à tout perdre. Il faut être jeune, il faut ne pas avoir grand-chose à perdre, il faut avoir de grandes espérances, c'est le privilège de la jeunesse. Et ce qui explique que les révolutions sont le fait de minorités. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, moi je crois très peu à l'éventualité d'une révolution dans une société largement propriétaire, et puis où la moyenne d'âge, vu la longévité, a tendance à augmenter. Mais en même temps, il suffit d'une petite minorité décidée pour faire une révolution. Si l'État a la force nécessaire, aucune révolution n'a jamais réussi à renverser un État qui fonctionnait, mais si l'État est faible ou en voie de décomposition, c'est là que la révolution réussisse. Vous savez, c'est pas la révolution qui renverse Louis XVI, c'est la dissolution du pouvoir royal incapable de résoudre les problèmes qui crée un espace où les révolutionnaires peuvent s'engouffrer. Voilà, c'est ça. Et Napoléon, ça sera son grand mérite, leur fermera cet espace par la restauration d'un État qui fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut bien sûr aussi tenir compte du fait que les minorités sont minoritaires, mais pas forcément impuissantes.
Et alors justement, vous évoquez Napoléon et le lien qu'il a avec la Révolution, et vous écrivez souvent qu'il est le fils de la Révolution. Et en même temps, il y a, je trouve, un point très intéressant, c'est que pourtant, il a une forme de nostalgie, voire d'affection pour l'Ancien Régime. Et je trouve que ça se sent très bien dans sa relation avec Talleyrand. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a l'image, évidemment, dans la relation avec Talleyrand, le souvenir de ce mot prononcé en 1809, « Vous êtes de la merde dans un bas de soie », prononcé par Napoléon à l'égard de Talleyrand. Mais chez vous, vous vous dites, il y avait aussi une affection entre les deux hommes, une forme d'admiration mutuelle. Et je cite juste les propos de Napoléon à Caulaincourt pendant la retraite de Russie en 1812. « C'est un homme d'intrigue, il parle de Talleyrand, d'une grande immoralité, mais avec beaucoup d'esprit et certes le plus capable des ministres que j'ai eus. » Est-ce que vous pouvez nous revenir sur cette relation qui unissait les deux hommes ?
Vous savez, Napoléon, il sort de Corse. Il est né l'année du rattachement de la Corse à la France. Donc, il est un peu quand même comme un nouveau citoyen, comme un nouveau Français, comme quelqu'un qui n'est pas français depuis longtemps, qui n'a pas vraiment d'attachement avec la France. Et si bien qu'il va pouvoir avoir une position nuancée à la fois sur la Révolution et l'Ancien Régime. Et puis, comme il était convaincu réellement d'être de souche noble, il pensait que les titres que son père était allé acheter à Florence étaient des titres authentiques, il avait un préjugé nobiliaire, qui est un préjugé de parvenu. Mais à mon avis, c'est ce qui le rend touchant. C'est-à-dire le fait que lorsqu'il tombe amoureux de Joséphine, c'est aussi parce qu'il croit que c'est une grande dame de l'Ancien Régime. Et lorsqu'elle est au restaurant, eh bien, il va la montrer à ses amis à Paris par la vitre, et il leur montre, voilà, c'est elle que je vais épouser, et c'est une grande dame de l'Ancien Régime. Donc il a un côté comme ça un peu provincial parvenu, français récent. Alors il admire, il comprend aussi que l'Ancien Régime, ce n'était pas ce qu'en disent les révolutionnaires, et que dans la Révolution, il y a des choses qui étaient nécessaires et positives, et il va s'efforcer de faire la synthèse de tout ça, et ça va s'incarner dans deux personnages. D'un côté, Robespierre, dont il a connu le frère. Il a été très ami avec le frère Robespierre, et toute sa vie, il gardera une admiration pour Maximilien, pour l'incorruptible, en pensant que déjà Robespierre essayait de terminer la Révolution à sa manière, qui ne sera pas celle de Bonaparte. Et puis d'un autre côté, Talleyrand, qui pour lui incarne la grandeur de l'Ancien Régime. Et entre eux, il y a un rapport qui va s'inverser, parce qu'au départ, Talleyrand est un mentor pour Bonaparte. À l'époque de la campagne d'Italie, ils ont une correspondance. Et c'est Talleyrand qui lui donne des conseils, qui fait son éducation constitutionnelle. C'est dans la correspondance avec Talleyrand qu'on trouve les grandes idées qui seront celles de Bonaparte sur la refonte des institutions, etc., etc. Et une fois Bonaparte arrivé au pouvoir, bien sûr, la relation va s'inverser, puisque Talleyrand, de mentor, va devenir serviteur. Et serviteur très infidèle, d'ailleurs. Mais néanmoins, pour Napoléon, Talleyrand incarnera toujours ce qu'il y avait de grand dans l'Ancien Régime et dans l'ancienne noblesse. Et finalement, très peu de vieux nobles sont revenus en 1800. Et Talleyrand, de ce point de vue, fait figure d'exception. Et il aura ainsi des rapports avec Talleyrand qu'il n'aura jamais avec Fouché. Fouché va le servir, tout aussi mal d'ailleurs que Talleyrand à partir d'un certain point. Mais il n'y aura jamais d'affection entre eux. Hein, Fouché incarne vraiment ce qui, aux yeux de Napoléon, il y avait de pire dans la Révolution, alors que Talleyrand incarne ce qu'il y avait de meilleur dans l'Ancien Régime.
Voilà. À vous écouter quand même, on se dit aussi qu'il y a eu, en 10-15 ans, un nombre de personnalités hors du commun en France, oui. De Robespierre, Napoléon, Fouché, Talleyrand. C'est quand même des époques un peu bénies, des miracles presque.
C'est miraculeux. Alors peut-être que les grandes circonstances génèrent de grandes générations. C'est possible. C'est-à-dire, on voit que entre 1750, 60, 70 et 1880 peut-être, là il y a un siècle, français, je parle uniquement pour la France, extraordinaire. Où d'abord il va y avoir tous ces gens qui vont s'illustrer dans la politique, dans tous les partis d'ailleurs, sous la Révolution, qui vont se combattre. Puis cette génération incroyable qui va faire l'épopée impériale. Puis une fois que la possibilité de d'avoir une vie grande, héroïque et glorieuse va disparaître de la sphère politique, eh bien on va voir que ça va se réincarner dans la sphère littéraire. Avec tous ces écrivains incroyables du 19e siècle, ces intellectuels, les peintres avec Delacroix, la musique avec Berlioz. C'est-à-dire tous ces gens qui, au fond, gardent la même vitalité, le même élan créateur que la génération de 1789 ou de 1800.
Le mémorial de Sainte-Hélène est la Bible de Julien Sorel.
Oui, bien sûr.
Donc Napoléon a été l'essence,
la Bible. C'est la Bible de Balzac aussi. C'est la Bible de Berlioz. C'est-à-dire tous ont voulu être Napoléon dans leur champ d'activité, puisqu'on ne pouvait plus être Napoléon dans la politique ou la guerre. Voilà. Mais donc là, il y a un siècle formidable. Peut-être que c'est la création de circonstances dangereuses qui créent une grande génération. Et après tout, on pense toujours que le danger et la violence sont des mots terribles, mais c'est aussi quelque chose qui accroît l'intensité de la vie. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans le danger permanent, eh bien, ont plus de, comment dire, je sais pas comment dire, plus d'énergie vitale que ceux qui vivent ramollis sous un édredon. Hein. C'est un peu ça. Et puis peut-être qu'il y a un miracle inexplicable, parce qu'après tout, il y a la même chose en Amérique. La génération qui fait l'indépendance américaine est une génération extraordinaire. Et j'ajoute toujours un troisième exemple, je ne devrais pas, parce que ça, c'est pas très bien vu, mais la génération militaire qui va faire la guerre du côté allemand en 1940, Manstein, Rommel, etc., est une génération incroyable aussi. Mais c'est vrai que c'était des militaires extraordinaires. Alors, eux aussi sont les produits d'une période de crise extrême qui était la guerre de 14. Mais les grands généraux vont être les enfants de cette guerre de 14. Et principalement du côté allemand, avant qu'arrivent aussi de grands généraux américains ou anglais à l'épreuve de la guerre. Donc, probablement, il y a un mélange des deux. Les circonstances créent les grands hommes, les personnages extraordinaires, que ce soit d'ailleurs pour le meilleur ou très souvent pour le pire, parce qu'attention, les grands hommes ne sont pas forcément positifs, hein. Souvent ils sont parfaitement malfaisants, et puis probablement un effet de génération qu'il est impossible d'expliquer rationnellement.
Ce que vous décrivez ici, finalement, c'est ce que vous expliquez en disant que le grand homme, c'est la rencontre du génie et des circonstances. Et là, vous venez d'évoquer des périodes où il y avait la rencontre des deux. Moi, j'ai toujours été frappé. Dans Le Monde d'hier de Zweig, il dit à l'inverse que le Vienne des années 1900, peut-être jamais dans l'humanité, une ville n'a connu autant de génie au même moment, mais pourtant, la plupart sont morts anonymes parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre des circonstances. Et je trouvais que, par contraste, c'était intéressant. À la fin de notre échange, on voulait revenir également sur votre rapport à l'histoire. Et vous avez évoqué le fait que la France était prisonnière d'un roman national, d'Images d'Épinal, qu'on a un rapport finalement compliqué, quasiment un jeu de dupes également. Vous évoquiez De Gaulle, notre rapport à 1940. Et ça nous a, ce qui nous a beaucoup intéressé dans votre réflexion, c'est notamment le fait que vous avez dit une fois que vous aviez une vision œcuménique de l'histoire. À un moment où notre société veut souvent annuler certaines parts de l'histoire, ou bien simplement garder certaines périodes qu'elle considère comme étant meilleures, etc., vous vous dites, finalement, nous sommes le produit de l'histoire dans sa totalité, de ses périodes les plus sombres comme de ses périodes lumineuses, et donc on voulait peut-être échanger avec vous là-dessus. Aujourd'hui, vous évoquiez également précédemment la question des commémorations. On a tendance parfois à soit vouloir réduire les commémorations à certains aspects, soit à ne tout simplement plus célébrer certains hommes. Or, vous vous battez sur ce terrain-là, par vos écrits, par vos prises de position, pour qu'on ait un rapport peut-être plus sain à notre histoire.
Oui, vous savez, je crois que l'histoire, elle n'est jamais ni toute blanche, ni toute noire. C'est une zone grise. Au fil des siècles, des gens, ordinaires ou extraordinaires, ont fait au mieux de leur capacité, de leur croyance, pour faire que les choses aillent un peu moins mal qu'avant. Voilà, c'est tout. C'est ça, au fond. Et il faut reconnaître que, alors bien sûr, tous n'ont pas fait les mêmes choix. Nous portons des jugements divers sur ce qu'ils ont fait. Mais chaque peuple est le produit de son histoire. Personne n'a une histoire entièrement innocente. Personne n'a une histoire entièrement coupable. C'est un peu comme dans les familles. Et nous devons nous en accommoder parce que nous n'en avons pas d'autre histoire. Cette histoire est la nôtre, qu'on le veuille ou non, avec sa part d'ombre, sa part de lumière. Moi, de ce point de vue, tiens, après Rommel, je vais en citer un autre, c'est Barrès, qui est devenu, en devenant conservateur, le chantre d'une histoire réconciliée. C'est-à-dire qu'au fond, la France est la fille de la totalité de son histoire, quel que soit le jugement que l'on porte sur ses différents actes, sur ses différentes séquences. Voilà. Et je crois qu'en effet, on doit chérir notre histoire, parce qu'elle a été celle de nos ancêtres, elle est notre expérience, celle dont nous sommes issus, même si toute notre histoire n'est pas individuellement notre histoire. Moi, l'histoire de la noblesse d'Ancien Régime, ce n'est pas mon histoire, parce que je crois que je ne compte pas un seul noble dans ma famille. L'histoire du protestantisme, des protestants et de leur misère, leur souffrance, leur persécution, n'est pas la mienne non plus. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un seul protestant dans ma famille. Et je dirais même que l'histoire du catholicisme n'est que très indirectement mon histoire, parce que je ne me sens pas catholique. Voilà. Mais néanmoins, l'histoire de la monarchie, l'histoire de la noblesse, l'histoire du catholicisme, l'histoire du protestantisme, tout ça forme mon histoire. Idem de la monarchie et de la République. Donc je suis absolument contre le fait de distraire une partie de l'histoire pour recomposer une histoire qui serait conforme aux préjugés du jour. Ouais, je trouve ça à la fois insultant pour le passé, absurde, et témoignant surtout d'un manque de maturité, parce que la maturité, c'est pareil dans la vie, consiste à s'accepter tel qu'on est, avec le bien et le mal. Et un peuple se porte d'autant mieux qu'il réussit dans cette entreprise, et c'est pour ça que moi j'ai une sympathie tout à fait particulière pour les Anglais, parce que ils ont une histoire chaotique aussi, on ne peut pas dire le contraire, et une histoire parfois terrible. Le traitement réservé aux Irlandais est affreux. Aux catholiques aussi, les persécutions contre les catholiques, leur manière de gérer leur colonie n'a pas toujours été parfaite. Mais néanmoins, ils acceptent leur histoire parce qu'elle est leur grandeur, y compris dans ce qu'elle a de négatif. Bon, ils ont eu de la chance d'être plus souvent du bon côté que du mauvais, et notamment, ils ont échappé à la fois à la tragédie communiste et à la tragédie du fascisme, grâce probablement à leur régime politique. Voilà, donc c'est très important d'assumer la totalité de son histoire, de la faire comprendre, de l'expliquer. Et par exemple, il y a eu des expositions sur Napoléon, au moment du bicentenaire, où la place de la question de l'esclavage était démesurée. C'est-à-dire où la place de la repentance était démesurée. Moi, je suis hostile absolument à toute repentance. Repentance n'excluant pas, bien sûr, le fait d'expliquer, de reconnaître, de comprendre, et pas de dissimuler non plus. Voilà.
Tout ce que nous évoquons fait référence à ces polémiques, voilà, liées à ce qu'on appelle le wokisme ou la cancel culture. Peut-on encore enseigner sereinement l'histoire aujourd'hui ? Pensez-vous aussi, si on veut être un peu optimiste, que ce mouvement va prendre fin ? Parce qu'après tout, dans sa version la plus extrême, caricaturale, la Révolution française participait aussi. C'était une cancel culture un peu avant l'heure. Oui. Et certains de ces excès ont naturellement pris fin. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir finalement le même mouvement positif dans les prochaines années, ce qui permettra un enseignement plus serein de l'histoire ?
On peut d'ailleurs comparer le wokisme et la période la plus dure de la Révolution. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est une volonté de table rase du passé, mais très différente dans leurs objectifs, puisque les révolutionnaires voulaient reconstruire le monde sur la base de principes universels et communs, en faisant table rase du passé, idem pour le communisme, et tandis que le wokisme veut détruire le passé pour ramener le monde à ses identités naturelles.
Tribal, c'est une négation de l'universel.
C'est une négation de l'universel, du bien commun, de la citoyenneté, de tout ce que vous voulez. Alors il est vrai que dans le cas de la Révolution française, ça s'est arrêté. Robespierre a décidé un beau jour que c'était fini, et il a chargé Grégoire de rédiger plusieurs rapports sur le vandalisme révolutionnaire qui n'ont été rendus publics qu'après la chute de Robespierre et Grégoire a rajouté un couplet anti-robespierriste de circonstances là-dessus. Donc, une démarche d'autorité a suffi, qu'on peut comparer à celle qu'a prise le gouvernant de Floride, qui vient d'interdire l'enseignement des théories gender ou woke dans les écoles de Floride. Maintenant, c'est très différent parce que la table rase révolutionnaire ne s'attaquait pas vraiment à l'intime, aux mœurs, alors que le wokisme se déploie sur le terrain des mœurs. Et ce qu'on voit, c'est que s'il se heurte à une sorte de barrière infranchissable tenant aux générations, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés à l'âge adulte sont imperméables au wokisme, on voit que chez les plus jeunes, ça progresse, ça s'enracine. J'ai entendu dire que pour la première fois dans une école élémentaire corse, imaginez la Corse, une fille, une élève, avait pris un prénom masculin. Pour la première fois. Dans une ville que vous connaissez, Bastia. Voilà. C'est la première fois, c'est jamais arrivé encore. C'est un symptôme, ça veut dire que cette fois, la pénétration de ces théories, leur diffusion, se fait en profondeur. Donc il est absolument impossible de préjuger de ce que sera la situation dans 10 ans. Peut-être que tout cela va refluer, parce qu'après tout, un facteur optimiste, c'est que ça vient des États-Unis et que les Américains sont un peuple notoirement hystérique qui procède par ébullition. Alors, il y a eu la prohibition, plus personne n'avait le droit de boire un verre d'alcool. Ensuite, il y a eu le McCarthyisme avec la chasse aux rouges. Tout ça retombant comme un soufflet après quelques années. Là, on a ce mouvement wokiste. Alors, on peut fonder un petit espoir là-dessus. Le problème, c'est qu'en Amérique, au fond, c'est moins grave parce que c'est un pays fédéral, donc ça atteint certains secteurs de la société, mais pas d'autres. Nous, on est un pays jacobin. Alors, il suffit que une lubie s'installe au sommet de l'État, et à partir de là, elle ruisselle jusqu'en bas. C'est ça le danger dans le cas français. Et les énergumènes ne manquent pas à la tête de l'État, comme vous le savez. Donc, on ne peut pas préjuger de l'avenir. Il se peut aussi que si Poutine persévère dans ses entreprises agressives à l'égard de l'Europe, eh bien la situation devienne telle que le sérieux retrouve ses droits. Ce n'est pas exclu non plus, dans un avenir proche.
Le pire n'est jamais certain.
Non, le pire pourrait même être une solution, c'est-à-dire que le retour de la guerre en Europe nous délivre d'un certain nombre de fantaisies liées au règne de la paix perpétuelle.
Patrice Guénifet, merci beaucoup pour
merci
cet échange qui a été passionnant. On aimerait peut-être terminer par une question personnelle. Je crois que beaucoup de lecteurs attendent avec impatience le Napoléon, mais est-ce que vous travaillez sur un autre projet de livre en ce moment, ou quels sont vos projets d'écriture, si vous acceptez de les partager avec nous?
Bon, d'abord, j'ai bien sûr des remords. Il y a maintenant bientôt 10 ans qu'est paru le Bonaparte. J'ai des remords de ne pas lui avoir donné une suite. Il se trouve que j'ai toujours eu plus de sympathie pour Bonaparte que pour Napoléon, que l'histoire de Bonaparte était moins connue, en définitive, que celle de Napoléon, qui est en plus une histoire essentiellement qui tourne autour de la question de la politique étrangère, de la géopolitique, et que le public est moins friand, surtout en France, de ce genre de sujet que des questions proprement politiques. Il y a ça. Il y a aussi le fait que j'avais passé 10 ans sur le premier, et que m'y remettre pour 10 ans, c'est un peu une gageure. Je suis pas sûr de soutenir l'épreuve, donc j'ai transformé ça en projet d'un essai, mais d'un essai assez copieux, sur Napoléon et la France, qui, bien sûr, tournerait essentiellement autour de l'Empire, mais où je serais délivré de la nécessité, par exemple, de parler de la naissance du roi de Rome ou du mariage avec Marie-Louise, sauf sous l'angle politique et géopolitique, c'est-à-dire où je serais délivré d'un certain nombre de contraintes purement biographiques. Voilà. Parce que je ne me vois pas consacrer un portrait à Fontane ou des choses comme ça, ou alors à écrire, comme disait Bainville, l'enfilade interminable des batailles, toutes très bien connues d'ailleurs, où on n'apporterait pas grand-chose de nouveau. Et puis parallèlement, je fais depuis 3 ans un cours sur la fin de Rome, sujet un peu classique et qui me change littéralement, mais qui n'est pas sans résonance contemporaine.
Merci beaucoup, Patrice
voilà,
Guénifet.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Patrice Guénifet. C'est la fin de cette très belle discussion avec Patrice Guénifet, dont nous vous rappelons quelques ouvrages qui nous ont particulièrement marqués. Sa magistrale biographie de Bonaparte, intitulée sobrement « Bonaparte », publiée chez Gallimard en 2013. Napoléon et De Gaulle, deux héros français, publié chez Perrin en 2017. Ainsi que ses histoires de la Révolution et de l'Empire, également publiées chez Perrin, et qui offrent des portraits magnifiques des grands personnages qui ont peuplé cette période. Mais avant de conclure ce dernier épisode, avant la trêve estivale, le temps est venu d'évoquer nos coups de cœur. Romain, je crois que tu souhaitais encore parler d'histoire, mais dans un registre très différent.
Alors oui, comme tu le soulignes, je vais changer radicalement de registre par rapport à notre discussion avec Patrice Guénifet et ses œuvres. Mais je souhaitais tout de même parler de la grande histoire de France à travers un livre que j'ai un peu honte de découvrir si tard, mais après tout, mieux vaut tard que jamais. J'avais raté une merveille et il s'agit de l'histoire de France vue par San Antonio, écrite naturellement par Frédéric Dard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série des San Antonio, le génial et désopilant commissaire San Antonio a un adjoint, Berrurier, qui est tout aussi désopilant, mais davantage à son insu, et disons un peu rustre. Alors, tous les San Antonio sont des enquêtes assez rocambolesques, écrites avec une verve, un langage un peu disparu aujourd'hui. C'est un argot populaire, littéraire et cultivé. Mais cet épisode, ce livre, est un peu comme un hors-série dans la collection des San Antonio, puisqu'il n'y a pas à proprement parler d'enquête, mais il s'agit d'un cours magistral. Alors, San Antonio se rend compte que son adjoint est vraiment une buse en matière de culture historique, ce qui peut poser parfois quelques problèmes professionnels, et décide donc de lui raconter l'histoire de France en repartant des bases de Vercingétorix à De Gaulle. Alors, bien sûr, il s'agit avant tout de rire, et les dialogues entre cet anard de droite cultivé qu'est San Antonio et ce sympathique naïf, hein, aussi bourrin que chauvin qu'est Berrurier, sont très drôles. Il s'agit aussi, il faut le dire, d'une histoire parfois en dessous de la ceinture où la vie privée de nos rois, reines et grands hommes en tout genre est très mise en avant. Ce qui d'ailleurs n'est pas si injustifié, hein, puisque on sait que les passions, les maladies, les humeurs peut jouer un très grand rôle dans l'histoire et les prises de décision politiques. Mais au-delà de tout cela, en refermant le livre et pour faire écho à la discussion sur l'enseignement de l'histoire que nous avons eue avec Patrice Guénifet, je ne suis malheureusement pas sûr que beaucoup de lecteurs quittant aujourd'hui le collège ou le lycée seraient en mesure, au-delà de la langue, de comprendre beaucoup des références historiques que contient le livre. Parce que cette histoire de France vue par San Antonio serait un peu la version humoristique et très alternative du fameux Lavis, ce manuel d'histoire qui a nourri tous les jeunes élèves de la Troisième République. Et par provocation, on pourrait penser que si tous les élèves quittant aujourd'hui le collège pouvaient en savoir au moins autant que ce qui est enseigné dans ce San Antonio, ce serait déjà pas mal. Alors, je ne conseille pas forcément ce livre comme manuel d'histoire si vous entamez un doctorat, mais plutôt comme une agréable lecture d'été, et aussi comme un moyen de se reconnecter à l'histoire de France, et notamment aux parties de notre génération, Jérémy, a finalement assez peu entendu parler à l'école, celle comprise entre la fin de l'Empire de Charlemagne et l'établissement de la monarchie absolue à partir de Louis XIII et de Louis XIV. Donc voilà, c'est très, très amusant et c'est une belle lecture. Toi, Jérémy, toujours en termes d'histoire, tu voulais nous parler d'une pièce de théâtre adaptée au cinéma.
Oui, tout à fait. Alors, dans un style très différent, mais c'est un texte, puis ensuite un film que j'ai profondément aimé, qui est intitulé Le Souper, qui est une pièce de théâtre d'abord écrite par Jean-Claude Briseville en 1989. Et puisqu'on a évoqué Talleyrand durant nos échanges avec Patrice Guénifet, là, en l'occurrence, Talleyrand est une des figures principales, puisque c'est un huis clos et un dialogue aussi pétillant que savoureux entre Talleyrand et Fouché. Donc, deux figures incroyablement romanesques, deux grands personnages, et les dialogues sont absolument extraordinaires. Évidemment, on retrouve beaucoup de bons mots de Talleyrand, des saillies extraordinaires, et puis cette pièce de théâtre, qui avait d'abord été créée au Théâtre Montparnasse en 1989, est ensuite en 1992 devenue un film réalisé par Édouard Molinari, qui a repris les deux acteurs qui constituaient la distribution initiale, Claude Riche, Talleyrand, et Claude Brasseur, Enfouché. Deux acteurs magnifique. Claude Riche, notamment, est un Talleyrand absolument extraordinaire. Il avait d'ailleurs reçu le César du meilleur acteur pour sa performance. Et alors, pour replacer nos lecteurs dans le contexte, la scène du souper se déroule dans une soirée à Paris à minuit, le 6 juillet 1815. Il fait une chaleur étouffante à Paris, et puis étouffante dans tous les sens du terme, puisque Napoléon a abdiqué, Paris est occupé par les troupes coalisées, et on se pose alors la question du régime à donner à la France. Est-ce qu'on va retourner à une république? Est-ce qu'on va retourner, ça va être la restauration, le retour de Louis XVIII sur le trône? Talleyrand et Fouché ont des visions différentes et vont lutter toute la soirée pour imposer leur approche. Et je terminerai juste par cette citation des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand qui conclut le souper, absolument magnifique. Et je cite Chateaubriand, « Je me rendis chez Sa Majesté, introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvais personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand marchant soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Si vous voulez donc retrouver à la fois le vice et le crime, lisez ce superbe texte, Le souper de Jean-Claude Briseville.
Magnifique, magnifique, et on a parfois des coups de cœur différents, mais là je t'avoue que c'est aussi un coup de cœur que je partage, aussi bien le film, et j'avais eu la chance de voir la pièce de théâtre il y a quelques années, qui n'était pas jouée par bien sûr Claude Rich ni par Claude Brasseur, mais par Nils Haristrup et Patrick Chenet, et c'était un très beau souvenir. Merci Jérémy, merci à tous nos auditeurs. Rendez-vous début septembre pour de nouveaux épisodes du Corse et de l'Auvergnat et pour une nouvelle saison qui s'annonce passionnante et mouvementée. D'ici là, nous vous souhaitons un très bel été et très bel été à toi, Jérémy.
Bel été à toi, Romain. Bel été à tous et à très bientôt.